Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons dans votre émission ce soir de la nouvelle équipe gouvernementale en République démocratique du Congo. Sera-t-elle assez soudée, contrairement à celle sortante de Sylvestre Ilunga Ilukamba, pour agir ensemble face aux défis sécuritaires et autres qui les attendent? Nous en débattons dans quelques instants, mais nous allons d'abord retrouver notre invité décryptage.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et il s'agit de Jalel Archaoui. Monsieur Archaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur à la Global Initiative et spécialiste de la Libye, ici à Paris. Le Premier ministre libyen Abdel Hamid Beïda est en visite en Turquie, accompagné d'une vingtaine de ministres, une délégation plutôt importante. Qu'est-ce que cela signifie, autant pour Tripoli que pour Ankara, monsieur Archaoui?
Ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire que dans les circonstances actuelles où beaucoup d'États étrangers se précipitent pour bénéficier un petit peu de ce qui semble être un environnement plus paisible et donc plus propice au business en Libye, eh bien, en tête de liste, l'État qui sera le mieux traité, celui vis-à-vis duquel la proximité va être maximum entre le nouveau Premier ministre Abdelhamid Bouliba et Ankara, eh bien, c'est justement la Turquie, qu'aucun autre État ne passera avant. Les autres peuvent faire la queue, si vous voulez. Ils peuvent prendre un ticket comme à la boucherie s'ils le souhaitent. Ils seront pris en considération. Il y a aussi la visite du président libyen actuellement à Athènes, par exemple. Cela est assez sincère. Mais la Turquie est un État spécial parce qu'elle a sauvé, entre guillemets, si vous voulez, dans la perception du gouvernement actuel, elle a sauvé Tripoli.
Oui, et quelle a la Turquie qui a notamment soutenu le gouvernement d'union nationale contre la position de la France, par exemple, qui soutenait carrément, et on le voyait très bien, le général Haftar de l'Est libyen.
Oui, c'était un soutien diplomatique, le soutien militaire le plus important pour le maréchal Haftar, plus important encore que les mercenaires russes. C'était surtout la grande campagne de frappes aériennes menée par les Émirats arabes unis. Et même vis-à-vis des... Et d'ailleurs, c'est pas innocent que juste avant cette grande visite à Ankara, le Premier ministre de Liban a pris soin d'aller passer deux jours à Abu Dhabi. Donc il y a aussi cet autre aspect qu'il faut souligner. Il y a un souci de ménager les uns et les autres, d'essayer de trouver un pragmatisme qui fasse que tous ces États cohabitent. Mais malgré tout, la Turquie sera traitée comme un État spécial.
Donc vous dites que le lien entre Tripoli et Ankara, ce sont des liens spéciaux. Donc ces liens ne sont pas qu'apparents, ils sont solides. Est-ce que cela veut dire que Recep Tayyip Erdogan a réussi à faire de Ankara un passage diplomatique et même une alternative économique incontournable pour la Libye, beaucoup plus qu'évidemment les capitales occidentales comme Paris?
Oui, mais c'est pas certain que la Turquie puisse maintenir cette position sur les 2, 3, 5 ans à venir. Jusqu'ici, le bilan, vous avez raison de le dire, le bilan des Turcs est extrêmement positif. Ils ont fait un sans faute depuis le début janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, la phase militaire et maintenant vraisemblablement la phase économique. La récompense économique semble bien se dérouler, mais il ne faut pas croire non plus que la Turquie ne fera jamais d'erreur et que le Premier ministre actuel ne va pas non plus poursuivre d'autres pistes au fur et à mesure que la protection militaire de la Turquie devienne petit à petit moins nécessaire avec le temps qui passe.
Parlons justement de cette protection militaire. Le chef d'état-major libyen fait partie de la délégation. Que faut-il espérer des accords militaires qui feront certainement partie de nombreux accords qui doivent être signés entre les deux pays? Allô, monsieur Archaoui? Allô? Nous n'entendons plus notre invité, monsieur Jalel Archaoui, invité décryptage en direct ce soir. Je ne sais pas s'il m'entend. Monsieur Archaoui, vous êtes là? Allô, monsieur Archaoui? Manifestement, il ne nous entend pas. Je pense qu'on va mettre un terme à cet échange de façon un peu plus imprévue, hein, malheureusement, avec notre invité décryptage, Jalel Archaoui. Merci beaucoup, chercheur à la Global Initiative et spécialiste de la Libye.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Plusieurs défis attendent le nouveau gouvernement congolais qui a été annoncé cet après-midi par le Premier ministre. Est-ce que cette équipe gouvernementale sera-t-elle plus, est-ce qu'elle sera plus soudée que la sortante pour faire face à toutes ces priorités? Nous en débattrons avec nos invités qui patientent déjà pour certains au standard. Docteur Charles Edico, enseignant, chercheur à l'Université de Kinshasa. Je ne sais pas si m'entend, non, pas encore. Ghislain Mouyoua, militant du mouvement citoyen Lucha pour le changement à Goma, dans l'est justement de la RDC. Nous avons également Alexandre Kiedi, représentant et président fédéral de l'UDPS, c'est le parti au pouvoir ici en France, donc l'UDPS parti au pouvoir, mais il est de l'UDPS France. Et nous avons également Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du président congolais, et Félix Tshisekedi. Laurent, nous devrions l'avoir déjà au standard. S'il m'entend, Monsieur Kasongo Mwema Yamba Yamba, pas encore. Et je vous rappelle que oui, nous avons été un peu pris par l'interruption brutale de notre échange avec l'invité décryptage. C'est la raison pour laquelle nos invités ne sont pas encore positionnés, mais rassurez-vous, Edouard Ning, qui assure la production de cette émission, s'active pour les joindre le plus tôt possible. Et je rappelle que ce soir, nous allons parler du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Et d'après le Premier ministre Samalou Kondé, au niveau de la représentativité, elle est de 27%. La moyenne d'âge est de 47 ans. Les nouvelles figures sont à 80% dans ce gouvernement, dont la priorité est, d'après le gouvernement, la sécurité, la santé, l'enseignement, la justice, l'agriculture, la pêche et l'élevage, mais aussi l'économie, le processus électoral, parce qu'il faut rappeler que l'élection est prévue en 2023. Et les autres priorités sont l'infrastructure et le numérique. On me fait signe que certains de nos invités n'ont pas encore. Nous allons donc les retrouver dans quelques instants pour parler des urgences auxquelles doivent s'attaquer ces ministres pour pouvoir répondre véritablement aux attentes des populations congolaises au moment où il y a une forte inquiétude, notamment dans la partie est, avec les manifestations des populations qui ont exprimé et qui expriment encore d'ailleurs leur ras-le-bol face à la situation sécuritaire. Rappelons que depuis la semaine dernière, lundi 5 avril dernier, des activistes de la société civile ont lancé un mouvement de 10 jours de protestation contre justement cette insécurité et pointent notamment du doigt la MONUSCO, la mission des Nations Unies sur place en RDC, accusée d'incapacité à protéger les populations civiles. Eh bien, à côté de ce défi sécuritaire, il y en a bien d'autres. J'ai mentionné quelques-uns tout à l'heure. J'ai parlé de la justice, de l'économie, du processus électoral, mais peut-être aussi de la lutte contre la corruption dans le pays, qui a fait l'objet de discussions aujourd'hui d'ailleurs au Sénat. Donc, et je rappelle que nous allons parler de tout cela avec nos invités, que je vous présente à nouveau, Dr Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Nous aurons aussi Alexandre Kiedi, représentant et président fédéral UDPS France, qui m'entend d'ailleurs, me fait un signe. Monsieur Kiedi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. Et nous aurons également Ghislain Mouyoua, militant de la Lucha. C'est le mouvement citoyen lutte pour le changement. Monsieur Mouyoua, bonsoir. Allô, Monsieur Mouyoua.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Vous êtes à Goma.
Bonsoir.
Merci. Nous vous entendons parfaitement, Monsieur Mouyoua. Vous êtes à Goma. Et on devrait avoir dans un instant Kasongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du président Tshisekedi. Je vais commencer avec vous, qui êtes peut-être en RDC, Ghislain Mouyoua. Ce nouveau gouvernement a donc été rendu public dans un contexte sécuritaire difficile dans l'est du pays. Mais déjà, est-ce que vous êtes satisfait de sa composition?
Merci d'abord pour l'invitation et je salue tous les co-débatteurs, mais également les auditeurs qui nous suivent à ce moment. Alors, pour nous, c'est d'abord un gouvernement qu'on a entendu depuis longtemps. Donc, vous allez déjà comprendre que le Premier ministre avait promis qu'il va faire son gouvernement d'après un mois. Il a dépassé ces temps-là. Et déjà, il a aussi promis...
C'est depuis le mi-février, le 15 février, que le président lui a demandé de former le gouvernement.
Ouais, donc il a demandé, il avait aussi dit qu'il va faire un gouvernement de 45 ministres. Donc, il a aussi dépassé cela parce que là, nous avons un gouvernement de 57 ministres. C'est déjà un gouvernement pléthorique. C'est pas trop différent du précédent qui avait 65 ministres. Donc, déjà... À ce niveau, pour nous, c'est pas satisfaisant parce que nous voulions qu'ils puissent réduire de manière systématique les gouvernements. Et parce qu'on sait le budget que tous ces ministres consomment déjà dans leur fonctionnement. Et pour nous, c'est déjà un gap pour le pays. Mais également, on remarque que c'est un gouvernement qui est centré autour de personnes. Évidemment, qui viennent de
Allô, allô, Monsieur Mouloua. Bon, je pense que la ligne s'est dégradée avec Goma. On l'a perdu, Hugo Vallière, à la réalisation. On voilà. Va peut-être écouter.
Allô. J'ai l'impression que le signal est assez. Le signal sort un petit peu entrecoupé.
Je ne sais pas si c'est vous, Monsieur Mouloua, qui parlez à nouveau. C'est vous, Monsieur Mouloua. Allô.
Bon. Là, c'est moi qui suis au téléphone. Là.
Oui, allez-y, M. Mouat, concluez vos propos dont vous disiez que ce gouvernement est pléthorique. Allô, bon.
Le gouvernement, oui.
Allez-y.
Allô.
On vous écoute.
Le gouvernement est parti sur le principe d'une réduction de l'équipe qui était déjà en place. Et je crois qu'effectivement, comme l'a dit le Premier ministre lui-même, il y a. On a réduit les effectifs puisque on est à 56 membres, contrairement à ce qui s'était passé avec l'équipe du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Naturellement, on aurait espéré peut-être qu'il y ait un petit peu moins de personnes, mais vous savez, le Premier ministre a ratissé large. Il faut la représentativité, on a voulu qu'il y ait une bonne présence de jeunes, hein, même qu'une bonne présence...
De femmes aussi, merci beaucoup.
Femmes.
Donc on va dire pour résumer, M. Oui. Mouya, sentiment assez mitigé, on va voir ce qu'en pense Alexandre Kiyedi. M. Kiyedi ?
Oui, je vous écoute.
Oui, votre premier commentaire rapide sur ce gouvernement ?
Oui, pour moi, c'est que le gouvernement est bien sûr pléthorique. Mais il ne faut pas oublier que c'est la démocratie qui exige que ça soit pléthorique. Étant donné qu'il y a le gouvernement n'est pas formé par un seul parti, mais par une multitude de partis, qui suit un idéal bien donné, qui est l'union sacrée pour la nation, donc il fallait mettre tout le monde à la tâche. C'est pourquoi le gouvernement est pléthorique comme ça, parce que nous, on s'attendait à 41 ministres. Mais bon, on est tombé à 50, au lieu de 60 comme c'était avant. Donc il y a quand même une diminution de la part du président et de son premier ministre du nombre de ministères pour permettre au fonctionnement de ces institutions de pouvoir se faire à bien.
Donc vous parlez de démocratie, mais vous reconnaissez que le gouvernement reste néanmoins pléthorique. Mais quand vous parlez de démocratie, d'autres y voient plutôt une sorte de partage de gâteaux où chacun des camps politiques, désormais membres de l'Union sacrée, veut aussi, tout autant que le précédent, sa part de gâteau en quelque sorte pour son parti politique.
Moi, je ne crois pas beaucoup puisque le gouvernement n'est pas formé par l'IDPS et quelques grands partis. Il est formé par des personnalités des partis qui ont une vision telle que le présent là, c'est-à-dire que l'union sacrée pour la nation est dans le but de sortir le Congo du marasme, de la crise et du marasme dans lequel il se trouve. C'est tout. Il n'y a pas d'autres négociations qui se sont faites après, ou bien d'autres alliances qui se sont conclues avant. Non. Mais tout s'est fait aux yeux et aux vues de tout le monde, des présidents à nous-mêmes premiers ministres, avec lesquels ils ont travaillé ensemble pendant un bon moment. Tout le monde criait, ah non, le gouvernement traîne. Aujourd'hui, pour ne pas que le gouvernement traîne, ils ont coupé court en obéissant à trois critères. La représentativité nationale,
merci.
La compétence surtout, et puis l'égalité entre les hommes et les femmes au sein du gouvernement.
Merci beaucoup, Monsieur Kiyedi. On va à présent écouter Dr Charles Odiko. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Votre commentaire sur ce gouvernement et ce que le Premier ministre a dit, il estime que 27% de la représentativité féminine est importante, la moyenne d'âge aussi 47 ans. On a des nouveaux visages à hauteur de 80%. Est-ce que pour vous, ce sont des éléments importants? Ce gouvernement répond-il à ce que vous espériez?
Non, pas du tout. Je suis quelque peu répit en moi-même, étant donné que le contexte qui a donné lieu à la naissance même de la nouvelle majorité, dont émane aujourd'hui le Premier ministre, éventuellement ce gouvernement, c'est un contexte en quelque sorte contre nature. Et ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément, vous verrez que le Premier ministre a fait plus de 2 mois pour arriver à avoir cette équipe. Éventuellement, les intérêts individuels et égoïstes auraient pris le devant sur toute autre considération, et que donc on peut considérer que, comme tout le gouvernement africain et congolais en particulier, nous allons participer, comme pour d'autres gouvernements, à un enrichissement illicite aux gens qui défendront les intérêts des partis, et aussi dans l'avenir. Nous allons voir le poids de différentes tendances qui se sont rencontrées dans le cadre de cette union sacrée. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, ce matin, je suivais un membre de l'union sacrée qui disait que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une charte qui pouvait bien régir les rapports. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est qu'il n'y a pas une idéologie autour de laquelle toutes ces forces politiques peuvent converger pour conduire leur action. Au fait, il y avait un terme creux, union sacrée. C'est quoi l'union sacrée? Quelle est la philosophie de l'union sacrée et tout? Vous savez, en Afrique, tout le monde qui veut arriver, qui veut conquérir le pouvoir nous parle du changement. Et en quelque sorte, ces changements sans contenu nous posent problème. Et pour nous, les intellectuels et les scientifiques, on ne sait pas croire à cette catégorie de gens. Et est-ce que, comme le Premier ministre a dit, le fait d'avoir de nouvelles figures signifie qu'on pourrait avoir un changement peut-être de gouvernance? Je ne sais pas le dire, mais je doute aussi, parce que vous savez que des fois on dit mieux vaut les diables que l'on connaît que les saints qu'on ne connaît pas.
Merci
c'est
beaucoup.
Vrai que tout ce qui est inconnu passe pour mystérieux. Est-ce que ces gens-là, nous estimons parce qu'ils sont jeunes,
merci
est-ce que
beaucoup.
La jeunesse...
Merci beaucoup, monsieur Odiko.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons de la RDC, qui a un nouveau gouvernement depuis la fin d'après-midi. Est-ce qu'il sera assez soudé pour se consacrer aux défis auxquels il fera face? Nous en débattons avec 4 invités. Dr Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa. Ghislaine Mouya de la Lucha, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha donc à Goma. Alexandre Kiyedi, représentant et président fédéral UDPS France. Et enfin, nous avons en ligne également de Kinshasa Tarsis Kasongo Mwema Yamba, porte-parole du président Tshisekedi. Monsieur Mwema Yamba, bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Soyez le bienvenu. Alors, il y a dans la première partie de l'émission des avis mitigés qui ont été entendus concernant le nouveau gouvernement, mais la plus grosse inquiétude reste au niveau de la cohérence de celui-ci qui devra faire face à de nombreux défis. Mais déjà, est-ce que vous pouvez répondre à ces observations relatives à la nature pléthorique du gouvernement? Pour certains, on attendait 45 ministres ou 45 31 même, on a plus de 50. Quand répondez-vous à ces observations?
Mais ce sont des observations qui me semblent légitimes. Vous savez, l'ancien gouvernement, il avait beaucoup plus de membres que celui-ci. Le Premier ministre avait la charge de réduire sensiblement. Bon, voilà, il a fait les arbitrages nécessaires et il est arrivé au chiffre de 56, là, je crois. Et donc, il y a une réduction par rapport au premier gouvernement. Maintenant, ce dont il faut tenir compte, c'est la capacité du Premier ministre à pouvoir faire travailler cette équipe-là en cohésion. Il a consulté lui-même très largement et c'est vrai qu'il a soumis sa liste définitive au président de la République, et le président de la République a dû recadrer à plusieurs reprises, notamment parce qu'il n'y avait pas suffisamment de représentativité de la femme, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes. Or, ce sont des challenges auxquels il devait répondre. Et donc, je pense que là, le Premier ministre est en train de tenir, je crois, une conférence de presse pour pouvoir expliquer comment techniquement il a rangé le gouvernement et comment il compte le faire fonctionner en cohésion. Et
on parle justement quand même d'un gouvernement qui a vu le jour après plus de 2 mois d'attente. C'est vrai que c'est pas comparable à la durée d'attente pour la formation du précédent gouvernement de la défunte coalition CACH-FCC. Mais quand même, ça interroge. Certains se disent, si on a pris autant de temps pour former le gouvernement, on pourrait assister à une situation de dissension aussi lorsque celui-ci sera appelé à travailler sur le terrain.
Mais écoutez, c'est un risque parce qu'il fallait quand même, il y a beaucoup d'ensemble politique qui tenait à rentrer au gouvernement. Il a fallu donc départager un certain nombre d'ambitions. Bon, mais le challenge, c'est que tous doivent entrer dans la vision du président de la République. Il attend d'eux un gouvernement qui va se resserrer autour du Premier ministre pour...
Comment obtenir dans cette cohésion? C'est là la principale inquiétude. L'enseignant chercheur Charles Odico disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de charte à laquelle tout ce gouvernement sera soumis. Donc il y a de réels risques que celui-ci ne travaille pas dans la cohésion et ne regarde pas vers la même direction.
Oui, mais écoutez, les risques, on les connaît. Et le Premier ministre, M. Samalou Kondé, avec qui je me suis entretenu tout à l'heure, est bien conscient que ça va être assez laborieux. Mais tant qu'à faire, il fallait bien que les uns et les autres, entrent dans la vision du président de la République. Et vous parlez d'une charte, effectivement. Cette charte n'est peut-être pas encore écrite, mais en discutant avec les uns et les autres, le Premier ministre avait véritablement un certain nombre d'objectifs dont il a discuté avec ses interlocuteurs, et ils ont compris, et ils se sont engagés. Ce sont des engagements qu'ils ont pris avec le Premier ministre et naturellement avec le président de la République.
Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, M. Kassongo? Est-ce qu'il ne fallait pas d'abord écrire cette charte, que tous les candidats ministrables puissent les signer avant qu'on ne procède éventuellement à leur nomination?
Déjà là, vous avez bien vous-même dit qu'avec 2 mois, les gens commençaient à murmurer. Et s'il fallait encore se réunir pour mettre tout le monde d'accord et sortir une charte qui engage l'ensemble du gouvernement.
Allô?
Oui, certainement. Oui, allô?
Oui, M. Caron, vous avez perdu. Terminez vos propos.
Bon, je disais que on aurait perdu davantage de temps. Or, effectivement, le temps, ce n'est pas l'allié de l'actuel gouvernement. Et donc, il fallait que les personnes s'engagent, ne fût-ce que verbalement, pour que on essaye de fédérer l'ensemble de ceux qui se sont présentés pour participer au gouvernement. Merci. On a conscience de la difficulté. On a conscience de la difficulté, mais je pense qu'on peut faire confiance au Premier ministre.
Merci, M. Kassongo Mouema Yamba. Ghislain Mouyoua, allô, on l'a perdu. J'aurais bien aimé qu'il réagisse aux propos de M. Yamba. Alexandre Kiyedi?
Oui,
oui,
je suis à l'écoute.
Oui, Je préfère hein, qu'on donne la parole à M. Odiko, puisque vous êtes du même camp politique que M. Mouema Yamba Yamba. Est-ce que vos inquiétudes ont été en quelque sorte levées, M. Odiko, avec les réponses qui ont été données?
Allô?
Oui, monsieur. Bon. Oui, allez-y.
Au fait, bon, vous avez, c'est vrai qu'il essaie de se débrouiller, mais vous sentez déjà que par les arguments avancés par les porte-parole du chef de l'État, il n'y a pas cohérence. Donc, on peut tous comprendre, c'est vrai que c'est notre pays, nous voulons bien que le pays puisse aller de l'avant. Mais nous comprenons que nous sommes allés sur, nous avons commencé, nous sommes partis sur de mauvaises bases et que, au moins par miracle, on peut espérer atteindre, à satisfaire aux besoins de la population et de l'ensemble du peuple congolais. Et vous voyez même les déclarations que font tous les membres de l'Union sacrée. Les tout convergent vers un certain présidentialisme. Donc le premier ministre n'est que simple étiquette, parce que vous savez, ici tout le monde dit que c'est le programme du chef de l'État. Alors que la Constitution reconnaît au premier ministre de concevoir son programme en concertation avec le président de la République. Donc vous voyez que ce sont des gens qui sont venus, ils ne savent même pas quel est leur rôle et tout, même parce que tout le monde parmi ces gens, tous ces ministres, qui sont même le premier ministre lui-même, renonce à ses attributions constitutionnelles. Et que donc, nous avons vu 2 ans de fonctionnement du président Tshisekedi, nous voyons qu'il y a au plus de promesses que tout. Et dans ces promesses, des fois, ce sont des promesses sans fondement. C'est comme ça que j'estime que tout ce que les porte-parole du président essaie d'avancer n'a pas de cohérence, et vous-même, vous l'avez senti. Mais je ne sais pas si un miracle peut intervenir à l'entretemps, mais au fait, tout ce qui a entouré ce gouvernement et toutes les querelles au sein de cette prétendue majorité, également les comportements barbares de certains acteurs politiques, ne nous permettront pas qu'au bout de 2023, le président à l'aune des élections de 2023, que le président ait un argument à tenir devant cette population.
Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Charles Odiko. Monsieur Kiedi, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire, ou bien qu'est-ce que vous pensez faire au niveau de votre camp politique pour que cette inquiétude relative au manque de cohésion puisse être levée? Parce que la crainte, telle que j'ai entendu du docteur Odiko, c'est que qu'on ne retombe pas dans la même situation à laquelle on avait assisté avec le gouvernement lorsqu'il y avait cette alliance CACH-FCC, c'est-à-dire le blocage, la paralysie.
Mais justement, c'est ce que nous, on veut éviter. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a été mis en place cet idéal-là de l'union sacrée pour la nation. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est non plus pas une plateforme. C'est un idéal. L'union sacrée pour aboutir au bien-être de la population au Congo. Cette union sacrée-là ne sera pas faite par d'autres personnes. Le président veut que nous autres Congolais, nous soyons acteurs de notre situation, acteurs de nos progrès, acteurs de notre bien-être. Il ne veut pas que les autres viennent nous imposer quoi que ce soit. C'est pourquoi il fallait une union sacrée. Souvenez-vous, en 1991, il y avait aussi l'union sacrée, mais de l'opposition. Ça a échoué puisque c'était de l'opposition seulement. Mais maintenant, l'Union sacrée est pour tous les Congolais, tous ceux qui veulent prendre part à mettre la main dans la pâte pour que le Congo puisse redevenir ce qu'il était avant l'indépendance ou bien ce qu'il était durant tout le temps que le Congo a vécu, doivent s'y mettre et venir au secours du président et travailler avec le premier ministre pour aboutir à cette réussite-là. Mais si tout le monde se met à critiquer, parce que la critique, c'est bien aisé. Moi aussi, je suis né dans la critique. J'aime bien la critique. Mais la critique ne doit pas être seulement quelque chose de banal, où on vient seulement, on critique, on ne propose rien.
Merci.
Qu'est-ce que vous proposez pour que le Congo puisse s'en sortir, pour que cette union sacrée-là puisse aboutir, pour que les Congolais vivent mieux? Qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes là qu'à porter des charges, mais apporter aussi des solutions. Voilà ce que nous voulons.
Merci.
Tend la main, ouvre largement la main de temps à tous ceux qui veulent travailler avec lui. C'est ce que on a toujours dit, c'est ce que j'ai toujours dit depuis longtemps. Nous tendons la main est tendue. Nous ne refusons personne.
Merci, monsieur Kiedi. On a écouté vos propos. Monsieur Yamba, alors, l'insécurité, c'est la première priorité, hein, c'est la priorité numéro une fixée par le Premier ministre au gouvernement. Et cela tombe justement au moment où la situation de l'Est, dans l'Est est plus que préoccupante. Depuis la semaine dernière, des tensions s'y déroulent suite aux manifestations des populations qui ont ras-le-bol de la situation sécuritaire. Est-ce que ce gouvernement, s'il n'est pas uni, peut véritablement travailler à répondre à cette urgence sécuritaire? Allô, M. Kassongo?
Oui, vous m'entendez là?
Oui, allez-y.
Bon, déjà, je ne sais pas pourquoi vous pensez que ce gouvernement ne peut pas être uni. Quand on a parlé effectivement de l'union sacrée, c'est cette vision-là que les différents membres de ce gouvernement partagent. La paix à l'est du pays et la paix dans l'ensemble du pays, c'est un impératif et tout le monde est conscient de ça. Maintenant, ceux qui instrumentalisent, notamment les jeunes qui ont manifesté dernièrement et que ça aboutit à une situation assez délicate, bon, ce sont des personnes qui sont instrumentalisées. Dernièrement, il y a le président de l'Assemblée nationale qui a demandé à des représentants, à des députés, de cesser d'alimenter les groupes armés. Mais cela, ce sont des choses qui se font chaque jour. Et chaque jour, il y a des actions qui sont menées sur le terrain, notamment par les forces armées, notamment par les services de sécurité. Ça, c'est malheureusement des choses que l'on ne voit pas. Bon, il est vrai que on voit plus le train qui arrive en retard que le train qui arrive à l'heure. Donc moi, je pense qu'il faut laisser la chance à ce gouvernement qui, est porté par un jeune dynamique, hein, qui est prêt à montrer ce qu'il a essayé de faire avec la Gécamines. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais je me dis que effectivement, avec déjà de la bonne volonté des uns et des autres. Or là, manifestement, on n'entend que des critiques. On n'entend que des
« oh oui, ça va ». Mais Monsieur Kassongo, quand vous demandez qu'est-ce qui fait croire aux uns aux autres que le gouvernement ne sera pas uni, vous-même, vous avez reconnu qu'il a fallu 2 mois pour le mettre en place. Ces membres de l'Union sacrée viennent de divers camps politiques. Ils ne sont pas tous de l'UDPS. Donc, et chacun vient avec son idéologie, ses intentions et ses calculs.
Mais c'est une réalité congolaise, madame. C'est une réalité congolaise, malheureusement. Il faut faire avec. Il faut faire avec et demander à chacun d'y mettre de la bonne volonté. D'y mettre de la bonne volonté et de travailler en regardant dans la même direction. Si la coalition qui a été abandonnée et laissée de côté n'a pas pu fonctionner convenablement, c'est parce que manifestement on n'allait pas dans la même direction. Vous aviez des personnes qui étaient là en fait pour scier la branche sur laquelle le gouvernement était assis. Et donc là aujourd'hui, je crois que je ne dis pas qu'il n'y aura pas de défis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques. Je dis bien que les risques sont là, mais il faut faire avec.
Merci beaucoup. On va vous retrouver dans quelques instants pour conclure notre débat sur la République démocratique du Congo qui s'est dotée d'un nouveau gouvernement qui a notamment comme priorité la sécurité, notamment dans l'est du pays. Nous en parlerons encore quelques minutes.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
En RDC, le nouveau gouvernement rendu public en fin d'après-midi sera-t-il à la hauteur des défis, dont notamment sécuritaires, qui l'attendent? Nous en débattons avec Tarsus Kassongo Mouema Yamba, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi, Alexandre Kiedi, représentant et président fédéral UDPS France, Ghislain Mouiwa, militant de la Lucha, la lutte pour le changement à Goma, et docteur Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'université de Kinshasa. Je pense qu'on a retrouvé Ghislain Mouiwa. Vous m'entendez, Monsieur Mouiwa?
Oui, bonsoir.
Oui, nous parlions du défi sécuritaire en RDC, qui est la priorité numéro une du nouveau gouvernement. Monsieur Kassongo parlait tout à l'heure de l'instrumentalisation de cette crise sécuritaire par certains responsables politiques. Un, est-ce que c'est le sentiment que vous avez sur place là-bas? Et de deux, Quels sont les actes forts, les décisions urgentes que vous attendez du nouveau gouvernement, peut-être du ministre de la Défense et de l'Intérieur, pour ramener un début de sécurité à Goma et dans l'Est?
Merci beaucoup pour la parole. Alors, je commence d'abord par condamner les propos du porte-parole du président et je regrette que ce soit des propos qui viennent de lui. Ça peut simplement me dire que ça vient du président de la République lui-même. Quand il dit que les jeunes qui ont manifesté à Goma ont été manipulés, ça c'est déjà très grave parce que nous avons organisé des manifestations à l'est de la RDC, à Goma, à Beni, à Butembo, parce que nous sommes fatigués de l'insécurité. Il y a nos sœurs, nos frères, nos amis qui sont tués chaque jour et cela nous indigne jusqu'au plus haut niveau. Et pour ça, nous avons décidé de manifester. Il n'y a pas d'instrumentalisation. C'est des personnes qui sont imprises des sentiments de justice, qui sont en colère et qui veulent que les autorités agissent. Mais je regrette qu'au lieu que les autorités agissent, ils continuent à dire que nous sommes manipulés ou que la guerre à l'est de la RDC est instrumentalisée.
Juste un mot, Mouyoua, si je peux me permettre, Monsieur Mouyoua, l'évêque de Beni Butembo, Monseigneur Melchisedek Sikulu Paluku, a lui aussi affirmé que toutes les structures nationales et internationales qui manipulent certains acteurs politiques et certains dits de pression pour rendre la région du Nord Kivu ingouvernable. Donc, l'évêque parle aussi, semble-t-il, de manipulation.
Non, il faut que nous puissions avoir une analyse beaucoup plus approfondie. Si déjà au niveau de la présidence, des acteurs peuvent parler d'une manipulation et donc vous avez compris ou peut-être de l'instrumentalisation, ça veut dire que vous comprenez que c'est ça le problème. Alors, ils doivent agir, ils doivent porter des solutions.
Qu'est-ce que vous attendez comme solution urgente?
Et nous, en tant que population de l'Est de la RDC, pour ces nouveaux gouvernements, nous voulons qu'ils puissent poser des actes concrets parce que nous avons vu déjà des ans passés. Le président Félix a fait beaucoup de promesses et il n'a pas été capable de le réaliser. Alors,
il a même promis quand il était candidat de s'installer à Beni.
Oui, il a promis de s'installer à Goma. Il a promis qu'il peut même mourir pour que la paix revienne à l'est de la RDC. Mais nous regrettons que même lorsque les gens sont tués, il n'a jamais fait même un mot de condoléance. Donc ça veut dire simplement qu'il minimise cette situation. Et nous, ce que nous entendons, c'est quoi? C'est d'abord, un, qu'il puisse faire tous ses moyens possibles pour aider l'armée à poser des opérations de grande envergure. Parce que nous avons foi en notre armée. Nous savons qu'il y a des jeunes dans l'armée qui sont compétents, mais qui n'ont pas à manger, qui passent de nuit à l'extérieur, dont leur fonds, leur salaire est détourné par des gens qui vivent en Kinshasa. Et ces militaires, ils ne peuvent pas être capables d'agir parce que simplement, ils ne sont pas bien entretenus. Donc,
merci
il faut
beaucoup.
Que d'autres à l'armée du moyen. Deuxièmement, nous voulons qu'on puisse punir tous ces généraux qui sont dans l'armée, qui sont infiltrés dans l'armée et qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette guerre. Et troisièmement, nous demandons que le gouvernement puisse aider pour qu'il y ait le départ de la MONUSCO. Parce que nous avons vu qu'il faut qu'on ait un seul responsable. Et la MONUSCO, aujourd'hui, à l'est de la RDC, 20 ans après, et n'a rien fait, et nous exigeons que puisse être ramené. Et donc, les gouvernements que nous avons aujourd'hui, nous pensons qu'il doit poser des actes, et la priorité, c'est à ce niveau-là. Mais
merci.
Une deuxième priorité qui n'est pas sécuritaire, c'est aussi par rapport au processus électoral. Nous, en tant que peuple congolais, nous avons vu l'incompétence de Félix Tshisekedi, nous avons vu l'incompétence d'abord pendant les 2 ans, on a perdu 10 ans.
Merci, M. Mouyoua. Je pense que maintenant, on parle de la sécurité. Laissons le temps justement à M. Kassongo de répondre à ses reproches. En une minute, M. Kassongo, sur cette attente des habitants de Goma, sécurité.
Tout ce que votre interlocuteur est en train de décliner, problème, le président de la République les a à cœur et il y a des acteurs sur le terrain. L'armée est sur le terrain, les services de sécurité sont sur le terrain, mais ce qu'il faut savoir également, parce que vous voyez que ce qui éclate le plus aux yeux de du monde. Mais tous les efforts qui sont fournis pour apporter la sécurité dans l'est du pays, dans un certain nombre de coins, ça, personne ne veut en parler. Moi, je dis que effectivement, ça fait mal de nous rapporter tous ces crimes, de nous rapporter tous ces massacres qui sont perpétrés par des ennemis qui sont d'ailleurs pour la plupart, qui ont été mis en débandade et qui opèrent maintenant de façon asymétrique.
Mais vous parlez des hommes armés, mais lorsqu'on parle de détournement des primes des militaires, du renforcement des équipements et plus des FRDC, est-ce qu'au niveau des priorités du gouvernement, ce sont des éléments qui sont prévus, des choses qui sont prévues?
Le Premier ministre l'a formellement affirmé. Je crois qu'il faut quand même laisser la chance au gouvernement Samalou Kondé et voir sur pièce. Hein, parce que je comprends que les gens soient fatigués par des massacres perpétrés de manière récurrente. Il y a des sanctions qui sont prises contre ceux qui abusent de leur position. Il y a des sanctions qui sont prises, mais il faut pas non plus penser qu'il s'agit d'une baguette magique pour faire taire des combats, pour faire taire des guerres qui durent quand même depuis, n'oublions pas, plusieurs dizaines d'années.
Merci.
Et donc, il y a des efforts qui sont fournis. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on le reconnaisse et qu'on ne dise pas qu'on ne fait rien. Je crois que là, je m'inscris en faux. Il y a des efforts qui sont fournis. L'armée se bat tous les jours. Les services de sécurité sont sur le terrain. Mais il faut voir également qui avons-nous en face. Quels sont ces moyens et comment ils passent pratiquement inaperçus alors qu'il y a des services qui sont établis sur le terrain.
Merci, Monsieur Mouema. Malheureusement, vous n'aurez plus que 40 secondes, Monsieur Odiko, pour votre conclusion. Quelles sont les décisions fortes attendez-vous du gouvernement, notamment pour ce défi sécuritaire dans l'Est?
Bon, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on demande que nous puissions proposer, mais je ne peux pas passer de revenir sur ce que Monsieur Mbamba venait de dire tantôt. Comment il y peut? Aujourd'hui, à l'Est du pays, presque chaque famille a perdu un être cher. Et un peuple comme ça qui se révolte, vous dites qu'il s'agit de la manipulation. Vous comprenez que dès lors qu'on a les prémices qui sont mal parties, il est difficile qu'on arrive à des conclusions sérieuses. Donc s'il est faux, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un dialogue national pour que nous puissions discuter et éventuellement, comme eux proposent qu'il s'agit d'une union sacrée, pour que ça devienne véritablement une union sacrée, que ça ne soit pas une union sacrée des politiciens, pour qu'il y ait aussi une union sacrée des intellectuels permettant à tout le monde. Moi, au fait, moi, pour ma part, je suis même prêt à m'enrôler dans l'armée parce que la misère de ce que c'est pas, des populations de l'Est ont déjà atteint le seuil de l'acceptable.
Merci.
Je ne suis pas de l'Est, je suis du Sankourou, madame, mais je considère que ce qui se passe, si un chef d'État ne sait même pas dire un mot de condoléance comme le co-débatteur venait de le dire, c'est extrêmement grave.
Merci beaucoup. Docteur Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa. Merci à Ghislaine Mouioua de la Lucha à Goma, Alexandre Kiyedi, représentant et président fédéral UDPS France, et à Tarsis Kasongo Mouema Yamba, porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.